France Inter, le 6-9 du week-end.
C'est pas un peu voyant une main verte? Bonjour Alain Baraton.
J'adore les mains vertes. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour Laurence Alain. Thomas, bonjour à tous.
C'est ce matin la suite de notre incursion dans les jardins de Berlin. Et si on compare à Paris, combien existe-t-il précisément de jardins à Berlin par rapport à Paris?
Alors j'ai recensé près de 500 squares parcs et jardins pour Paris, et c'est considérable, 5 fois plus à Berlin. La capitale allemande est si végétalisée qu'il n'est pas rare quand vous vous promenez au petit matin de tomber nez à groin avec des sangliers.
Et pourquoi cette différence avec Paris?
Pour une raison simple et tristement logique. Au lendemain de la dernière guerre, la capitale allemande n'est plus qu'un champ de ruines et tout ou presque est à reconstruire. La population d'alors veut vivre en paix, dans des lieux verdoyants, ce qui explique pourquoi aujourd'hui 40% de la ville de Berlin, 890 km², ce n'est pas rien, sont des voies navigables, des jardins et des forêts.
Donc, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que les Anglais ou les Hollandais qui s'intéressent à la botanique.
Vous avez raison de le souligner, les Allemands sont même pionniers en la matière. Jérôme Bock, par exemple, né en 1498, est l'un des pères fondateurs de la botanique en Europe. Leonard Fox, né en 1501, donnera son nom au fuchsia, ou encore Engelbert Kämpfer, vraiment réviser mes notes,
je vois ça,
est né en 1651 et il est le premier étranger autorisé à visiter le Japon. C'est lui qui a introduit en Europe l'acupuncture et c'est lui qui découvre le Jingo Biloba.
Sans oublier un autre jardinier talentueux, Franz Spät.
Oui, c'est un homme au nom bizarre qui est un passionné et un pépiniériste. Il est si fier de sa production qu'il crée en 1879 un arboretum qui aujourd'hui porte son nom et qui présente une fabuleuse collection de près de 4000 espèces végétale sur 3,5 hectares au plein cœur de Berlin.
Le A tréma en allemand se prononce E.
Oui.
Franz Spät, je ne vous remercie pas. Il existe aussi à Berlin un jardin botanique.
Et il est considéré à juste titre comme l'un des trois plus grands jardins botaniques du monde. Il a été conçu en 1897 et il présente 20 000 variétés de plantes pour produire certains végétaux ou protéger ceux qui sont sensibles au froid. Il a été construit sur le site une quinzaine de serres dont une qui est spectaculaire. Elle a été bâtie en 1907, sa surface au sol est de 1700 m², sa hauteur de 25 mètres. Elle est la plus grande serre tropicale couverte du monde. Il est donc possible, en plein cœur de Berlin, dans un parc de 43 hectares, de découvrir tous les jours de l'année des plantes originaires des tropiques ou des régions désertiques, de se promener dans un jardin des senteurs. Les concepteurs du site ont même pensé à aménager un jardin du toucher pour les non-voyants, et même ceux qui ont la chance de bien voir peuvent en profiter. C'est merveilleux.
Ce jardin botanique de Berlin, il a aussi une vocation, une mission scientifique.
Et oui, les scientifiques étudient sur place la flore du monde entier et bien évidemment cultivent toutes les plantes aujourd'hui menacées de disparition.
Allez, à présent vos conseils aux auditeurs et auditrices de France Inter. Question de Séraphin qui veut vous parler de son avocatier. Cet avocatier a poussé dans un bac, il mesure aujourd'hui 60 cm. Alors comment pourrais-je protéger mon avocatier contre le gel qui est apparu ce matin, nous disait Jean-Michel Golinski.
Premier constat, connaissez-vous beaucoup, vous, d'avocatiers qui vivent dans en pleine terre au nord de la Loire sans aucune protection?
Je ne connais pas, moi.
Moi non plus. Bon. Ce qui veut dire que si l'avocatier poussait sans protection, on en verrait davantage. Malheureusement, je crains que cet avocatier ait une espérance de vie limitée, à moins de prévoir une sorte de mini-serre que l'on peut disposer sur le végétal avant l'arrivée du froid, à savoir une structure en bois, une structure en plastique que l'on met tout simplement lorsque la température descend, donc le soir prioritairement, et logiquement en faisant ainsi, il sera possible d'avoir un avocatier encore fringant au printemps, à condition que les températures n'aient pas été en dessous de moins 5 degrés, dans quel cas il n'y aura plus rien à faire.
Dominique n'a pas trouvé le temps de faire ses boutures d'hortensia cet été. Alors ces boutures sont-elles vouées à l'échec si elle les tente maintenant?
Les plantes aiment bien de temps en temps respecter le cycle des saisons. L'hortensia se bouture traditionnellement au cœur de l'été. Admettons qu'on fasse des boutures maintenant, que risque-t-il de se passer? Peut-être un échec, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous attendez quelques petits mois, vous ferez des boutures qui là vont véritablement démarrer. Alors attendons l'été tout simplement.
Marie voudrait vous parler de son oranger. Les feuilles de son oranger jaunissent. 5 oranges, 2 presque oranges, mais les 3 autres sont vertes. et Marie est inquiète. Est-ce qu'elle a raison de s'inquiéter?
Elle a un petit peu raison de s'inquiéter parce que cette orangée est la fin, tout simplement. Imaginez cette petite plante qui vit certainement dans un pot. Elle est là, elle produit des oranges. C'est déjà pour elle un effort considérable. Deux sont sur le point de mûrir. Elle a besoin de nourriture. Mettez donc rapidement, sans attendre de l'engrais. Sinon, la plante, malheureusement, va souffrir du fait que le processus de fructification est engagé. Elle ne veut pas perdre ses fruits et elle préfère malheureusement se délester quelque peu de son feuillage. C'est dommage et c'est dangereux. Nourriture immédiate.
Une question à la frontière entre la botanique et le code pénal à présent. Question de Jean-Marie qui a un chêne centenaire à triple tronc. Mais ce chêne se trouve menacé parce qu'il a la malchance d'être placé à côté d'une clôture. Et le seul tort qu'il a, ce chêne, c'est de perdre ses feuilles dans le jardin du voisin. Le voisin se plaint des feuilles qu'il doit ramasser. La loi est, paraît-il, du côté du voisin. Alors comment faire pour sauver ce chêne? Jean-Marie.
Il y a bien sûr la garantie trentenaire qui veut qu'on ne peut pas abattre légalement un arbre âgé de plus de 30 ans. Mais il est vrai que quand vous avez au-dessus de votre propriété des branches, vous êtes légalement en droit de couper tout ce qui pousse. C'est effrayant. Ah,
qui coupe les branches de qui?
Alors vous n'avez pas le droit, vous, de couper les branches
les
de votre voisin.
Dans mon jardin.
Voilà. Vous n'avez pas le droit. Vous devez.
Sauf quand vous vous appelez Alain Baraton.
Non. Oh là, moi je respecte la loi, vous savez. Non. Quand une branche apparaît au-dessus de votre propriété, vous êtes légalement en droit d'exiger la coupe de cette branche.
Donc c'est le voisin qui vient couper chez vous les branches
avec
de son arbre.
Avec votre accord, bien entendu. Mais vous avez obligation de. Vous êtes propriétaire de la surface au-dessus de votre jardin. Voilà. Et ce qui est navrant, c'est que j'observe qu'il y a une quantité incroyable de gens qui feraient mieux de vivre en ville, hein, dans un immeuble que dans un jardin. Si on est dans un parc, on n'aime pas les arbres, eh bien on laisse tranquille les arbres.
Alors non, que ça faire dit, si les feuilles tombent sur un canapé dans le jardin, enfin bon, ça peut aussi
non, causer mais des est-ce que problèmes. Ça a de l'intérêt d'avoir un jardin s'il n'y a pas des arbres devant vous? On respecte un chêne qui a plusieurs dizaines d'années, peut-être 100 ans, et si ce sont uniquement quelques feuilles, je conseille au propriétaire du chêne tout simplement d'aller ramasser les feuilles. Il y a peut-être un accord possible à trouver, mais il est vrai que légalement, le voisin a le droit d'exiger la coupe de toutes les branches au-dessus de la propriété. Il faudrait que les lois changent.
Allez, en 10 secondes, le citronnier de Damaya, elle voudrait le rentrer pour ne pas qu'il gèle, mais dois-je couper le gros gourmand qui a poussé pendant l'été? Le gros gourmand, c'est...
Oui, c'est tout simplement un rejet. Elle coupe le grand gourmand et elle ne rentre pas. Le citronnier, c'est une plante d'extérieur. Choc thermique, il va mourir sinon.
Un dernier conseil, c'est une lecture pour
oh
le
oui,
week-end.
Alors, j'ai beaucoup aimé grand-mère, leurs astuces conseillers remèdes, alors, de santé, pour le jardin bien entendu. C'est un bouquin qui a eu un grand succès, qui est publié chez Michel Lafon. Il est signé par Virginie Ni et Cyril Verglas. C'est plein de petits conseils. J'ai rencontré ce jeune couple qui a écrit ce livre. Ils sont sympathiques, leur gamine est délicieuse et le bouquin est fort joliment conçu. Eh ben oui.
Ah ben on saura tout.
Oui, parce que derrière un livre, il y a parfois des histoires de famille et des histoires d'amour.
C'était La main verte et les histoires d'amour d'Alain Baraton. À la semaine prochaine, Alain.
À samedi.